BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Vignon, déléguée générale du syndicat national de la publicité télévisée, pour un point complet sur la publicité segmentée. On prendra le pouls des Cannes Lions avec notre envoyé spécial à Cannes, Frédéric Roy, et puis on s'intéressera à ce qui a été l'une des tendances de ce festival, l'entertainment, avec Brian Cost, planeur stratégique senior chez Derwin, et le brand doctor Nicolas Levent. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et cette semaine, nous sommes avec Valérie Potin de la rédaction de CB News. Bonjour Valérie.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne pour les news. Aurélie. Alors Marie, on en parlait la semaine dernière dans HebdoCom. Beaucoup de marques surfent en ce moment sur la Coupe du Monde de football féminin pour faire leur com. Et cette semaine, c'est Isovert qui nous dévoile une campagne basée autour d'un supporter.
Exactement, Isovert nous présente Paul. Alors Paul, c'est un spectateur assidu de football. Il ne rate aucun match, sauf que sa télévision a quelques secondes de retard sur celle de ses voisins. Alors forcément, quand il y a un but, il entend ses voisins hurler de joie avant lui et forcément ça l'énerve.
Paul est victime d'un phénomène trop répandu. Le spoil. Est-ce un problème de réception, de connexion internet, une malédiction? Personne ne sait. Mais match après match, Paul souffre.
Quel régal, l'égalisation du Brésilien.
Il a tout essayé. En vain.
Nous vivons un moment extraordinaire.
Et après avoir perdu ses amis, il est sur le point de perdre tout espoir. Mais tiens bon, Paul, parce que la science est de ton côté. Grâce à l'incroyable technologie anti-spoil d'Isovert, ta vie va changer à jamais.
Isovert qui met ici en avant sa nouvelle gamme dédiée à l'isolation phonique, une gamme qui permettra peut-être à Paul de profiter de ses matchs au calme. Et la campagne est signée par Babel.
Et Bic fait appel de son côté au chanteur Soprano pour sa dernière campagne digitale.
Oui, avec un film qui commence avec une touche d'humour. Un adolescent écrit un SMS à l'élu de son cœur. Il écrit « Coucou Sarah », sauf que la correction automatique lui fait écrire « Coucou Salra ». C'est alors que Soprano apparaît.
Je t'observe depuis tout à l'heure et franchement, tu m'inquiètes. Si tu veux vraiment ouvrir ton cœur à cette fille, prends ton stylo, une feuille, et tu lui écris tout ce que tu ressens. Parce qu'avec un texto, je pense pas que ça va le faire.
Tu crois?
Certain. Allez, on essaye.
Soprano qui va donc apprendre à cet adolescent à écrire ses mots d'amour sur une feuille avec un stylo, et pas n'importe quel stylo forcément, le stylo Bic qui permet d'écrire et d'effacer à l'infini. Adieu les fautes, une campagne conçue par l'agence Passage Piéton.
Et puis cette campagne choc dont on a beaucoup parlé cette semaine pour 30 millions d'amis qui nous dévoile une campagne sur We Are The Champions de Queen.
Et oui, il y a quelques jours des premiers départs en vacances, 30 millions d'amis tapent du poing sur la table. La fondation utilise donc une chanson mythique pour nous dire que la France est championne d'Europe de l'abandon, avec 100 000 animaux abandonnés par an, selon elle. Et c'est un réel décalage entre la chanson et le message que veut faire passer la fondation. 30 millions d'amis veut ici sensibiliser à la banalité de l'abandon, en nous montrant des Français qui se séparent de leurs animaux de compagnie de façon assez terrible. Un hamster est jeté dans le vide ordure, des chatons sont mis à la poubelle, et ou encore un chien est laissé seul sur un terrain vague. La campagne est orchestrée par l'agence Altman-Pacro.
Valérie Potin, c'est surprenant le ton de cette campagne.
Oui, alors c'est surprenant, enfin c'est fascinant déjà et effrayant de voir d'un côté justement le succès que peuvent avoir les chatons lorsqu'ils sont pris en vidéo sur Internet et le peu de cas finalement qu'on leur accorde dans la réalité. Indépendamment de ce qui a été dit à l'instant, ce qui est intéressant dans cette publicité, c'est qu'elle apporte un nouveau message qui est pas très glorieux pour nous d'ailleurs, mais elle raconte autre chose que le traditionnel message qu'on a depuis 30 ans et dont on sait qu'il ne marche pas, qui est arrêter d'abandonner les animaux sur le bord de la route. Maintenant, s'agissant d'une campagne qui a vocation à faire changer les comportements, on sait que ça ne marchera que s'il y a une durée, une répétition du message. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des moyens, ce dont la fondation ne dispose pas malheureusement. L'autre possibilité, c'est tout simplement que les diffuseurs, eux, fassent preuve d'un peu de générosité et qu'il y ait aussi un engagement des internautes pour partager et puis peut-être aussi pour quelque part sanctionner, pourquoi pas en lançant un petit hashtag « balance ton maître ».
On va y penser. Merci Valérie et merci Marie Valogne.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Isabelle Vignon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général du syndicat national de la pub télévisée en charge du marketing et des études. Alors, on parle beaucoup en ce moment, Isabelle, de l'arrivée potentielle de la publicité segmentée sur nos télévisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche exactement?
Alors, ce que ça veut dire, en fait, c'est la réconciliation des deux mondes, des meilleurs des mondes. Donc, c'est-à-dire allier la puissance et l'efficacité de la télévision en linéaire, en broadcast, et aussi toute la granularité et la profondeur du digital. Donc, ce que ça permet concrètement, ça permet d'adresser un spot différent d'un foyer à un autre. Donc, au lieu d'avoir le même spot qui est diffusé en broadcast sur l'ensemble du territoire, ça permet d'adresser dans des foyers différents spots, donc pour toutes les marques.
Ça veut dire qu'une même marque peut parler différemment à différentes personnes, ou est-ce que plusieurs marques peuvent du coup parler à différentes personnes sur un même intervalle ?
Les deux, mais donc dès le courant donc de l'année 2020, puisque normalement là tous les faisceaux d'indices réglementaires donc sont plutôt au vert et encourageants. Donc au départ, on va sans doute parler d'un spot qui serait substitué dans un écran publicitaire et qui serait donc remplacé pour une marque. Donc un spot par selon les écrans, plutôt en 20 secondes. Et en 30 secondes, puisque c'est les formats les plus utilisés par les marques. Donc on va partir d'abord sur ce créneau-là, sur les tranches aussi horaires spécifiques, c'est-à-dire sur du daytime, de l'access et du night. Donc c'est-à-dire en seconde partie de soirée, sur des écrans de seconde partie de soirée, afin de ne pas trop surcharger les réseaux.
Ça veut dire qu'on va voir arriver aussi de nouveaux profils d'annonceurs finalement en télévision ?
Complètement, oui. On l'espère.
C'est ça.
C'est tout l'intérêt. On estime, avec donc une étude du SNPTV qu'on avait fait l'année dernière, qu'on aurait à peu près 41% de nouveaux annonceurs.
D'accord.
Donc d'annonceurs, annonceurs qui n'ont jamais communiqué en télévision.
Donc on est plutôt sur des PME, des petites entreprises, c'est ça, qui ne pouvaient pas pour des raisons budgétaires investir à la télévision.
Alors pas que.
Pas que.
Dans ces 41% de nouveaux annonceurs, on comprend surtout des annonceurs locaux. Mmh. Donc qui ont besoin aussi de communiquer et de profiter donc du média télévision. 28% donc d'annonceurs, de grands annonceurs qui font le fonds de commerce, on va dire, de la télévision déjà aujourd'hui. Mmh. 5% de pure players, et ils sont de plus en plus nombreux, on le voit bien, à communiquer, donc les Netflix, les Amazon, Uber et autres en télévision. Et 26% de moyens et petits annonceurs qu'on a déjà en télévision.
Et on a eu une étude assez récente du cabinet Wyman qui estimait que ce marché était à peu près équivalent à 200 millions d'euros. Est-ce que c'est en ligne avec ce que vous attendez, vous ?
Tout à fait. On avait déjà fait à peu près les mêmes estimations. On arrivait à peu près à 180 millions. Donc 200 millions, oui, c'est tout à fait en phase. Si vraiment tout était ouvert d'un coup, donc c'est-à-dire une granularité qui pourrait aller au-delà du code postal et donc vraiment une granularité assez fine de ciblage, et puis aussi un maximum de parcs, de box aussi éligibles et potentiels pour pouvoir adresser nos cibles, on pense même qu'on pourrait arriver jusqu'à 370 millions d'euros nets de recettes publicitaires donc engrangées supplémentaires.
Parce que le marquage au départ sera uniquement géographique, pas en fonction de la composition du foyer ou ce genre de choses ?
Alors, la composition du foyer, si, en termes d'âge, de classe d'âge et de région, bien évidemment. Après, dans un temps 2, on aura aussi peut-être d'autres marqueurs de foyer, comprenant, par exemple, leurs habitudes de consommation, leurs équipements, le type de véhicule ou le type de produit financier qu'ils possèdent déjà. Après, on peut estimer dans un temps 2 aussi un niveau de ciblage beaucoup plus fin.
Cette segmentation, est-ce qu'elle ne va pas aussi complètement bouleverser finalement l'organisation, le schéma même de production publicitaire ? On arrive sur des annonceurs, vous l'avez dit, qui sont différents, avec des problématiques différentes. J'imagine aussi beaucoup de communication de proximité, ce qui n'était pas le cas en télévision. En production, elles auront des budgets inférieurs qui ne leur permettront pas peut-être de produire des films de qualité équivalente. Comment ça va se gérer tout ça ? Est-ce que vous craignez pas que ce soit un petit peu... il y a une forme de cacophonie et un peu de grande disparité en matière de créativité publicitaire, par exemple.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc, par exemple, de la communication pour un tout petit annonceur en local.
Voilà, que ça ressemble à une publicité de cinéma local, on va dire.
Est-ce que oui, j'avais bien compris.
Sans vouloir être méchant avec eux, bien entendu.
J'avais bien compris. Et par rapport à un gros annonceur, on ne pense pas quand même qu'au départ, on aura forcément des annonceurs tout petits, en tout cas localement, pour ce démarrage. Et vraisemblablement, comme je vous le disais, on va peut-être démarrer par un seul spot qui serait substitué au sein d'un écran et qui serait remplacé. Donc, au départ, toujours d'après cette étude d'Oliver Wyman, 90% donc des annonceurs aujourd'hui se disent vraiment prêts et dans l'attente donc de cette ouverture de la télé segmentée. Donc, on pense pas du tout que ce sera une cacophonie et surtout, on pense qu'il y aura un message assez fin quand même et qui ira bien avec la créa originelle, soit qui porte la mention de la localité ou du département, mais on ne sera pas dans de l'artisanat, absolument pas.
Les objectifs, en tout cas, publicitaires, enfin, est-ce qu'un annonceur peut attendre autre chose d'une campagne locale que d'une campagne nationale ?
Ah oui.
Jusqu'à présent, télévision, on était plutôt sur, on fait de la notoriété, on fait de la présence à l'esprit.
Oui.
Là, sur du ciblé, qu'est-ce qu'on fait de différent ? Est-ce que ça change complètement l'affectation de la télévision, finalement ?
Ça change pas complètement. C'est extrêmement complémentaire. Alors, pourquoi ça change pas complètement ? Parce que la télévision, déjà, depuis qu'elle est mesurée, hein, donc depuis le Mediamat et depuis toutes les études d'efficacité donc qui existent, c'est le média donc qui a un potentiel de couverture donc le plus fort, le potentiel donc d'efficacité mémorielle ou sur les ventes également le plus fort. Donc, on pense que la télévision adressée, segmentée, sera extrêmement complémentaire. Donc, justement, pour pouvoir adresser des messages différents, donc soit sur des segmentations de cibles ou des tranches d'âge ou de régions. Et en termes d'efficacité, donc soit mémorielle ou sur les ventes, on a déjà quelques premiers résultats donc qui nous arrivent de l'étranger et notamment du VAB. Alors le VAB, qu'est-ce que c'est ? C'est le Video Advertising Bureau qui est l'équivalent du SNPTV aux États-Unis et qui, dans sa dernière étude qui date d'à peu près il y a 2 mois, est allé un peu plus loin que toutes les autres études préalables du marché potentiel publicitaire et de recettes engrangées et qui donne déjà quelques premiers enseignements extrêmement intéressants. Et sur les secteurs les plus investis en télévision, donc tels que la distribution, l'automobile, banque, assurance, etc., on a déjà des résultats extrêmement intéressants. Donc je vais vous en citer quelques-uns.
Enfin, rapidement, parce qu'on est au
bout. Le plus marqué, donc, par exemple, pour un croisiériste qui avait besoin d'adresser donc, un message pour des cibles qui avaient déjà voyagé donc, par le biais de croisiéristes dans les 3 dernières années et qui a réussi donc à augmenter son souvenir assisté de plus de 28%. Donc ça, c'est extrêmement remarquable. Pareil pour une banque en ligne qui a réussi à augmenter donc ses inscriptions, ses souscriptions sur des produits financiers et là qui s'adressait à des foyers dont les revenus étaient au moins supérieurs ou égaux à 100 000 dollars. A augmenté aussi de plus 16% ses souscriptions. Et pour un annonceur automobile, plus 13% de couverture incrémentale, donc sur le potentiel donc de sa cible déjà touchée en publicité normale, broadcastée linéaire, plus 13% de couverture incrémentale gagnée par la télévision adressée.
Bon, peut-être chez nous donc l'année prochaine, c'est ça, 2020.
Hein. Merci. 2020.
Merci beaucoup Isabelle Vignon, je rappelle que vous êtes déléguée générale du Syndicat national de la publicité télévisée.
BFM Business, Hebdocom. L'édito.
Cette semaine, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, est au Cannes Lions pour Hebdocom. Il nous parle de la tendance du moment. Vous en a parlé tout au long de cette saison, l'engagement des marques.
Le Festival de la Créativité à Cannes, où en effet depuis 66 ans se réunissent la crème des publicitaires pour déterminer quelles sont les meilleures campagnes et surtout pour faire du business. Autant dire que c'est pas a priori l'endroit où l'on s'attend à disserter sur les malheurs du monde moderne. Et pourtant, les questions de l'engagement sociétal est sur toutes les lèvres ici à Cannes. C'est que les campagnes qui ont le vent en poupe sont en effet celles qui prennent ces engagements à bras le corps. Ici, un film célébrant les premiers infirmiers qui ont soigné les malades du sida à Los Angeles. Là, le détournement d'un message raciste invitant les Noirs à retourner en Afrique, transformé en engagement culturel, ou encore un clip contre le racisme au Brésil. Bref, ces questions-là sont constamment évoquées dans les campagnes les plus primées. Difficile, à vrai dire, de s'en réjouir, parce que ça montre d'une part évidemment que notre société et notre planète ne vont pas très bien, mais surtout que ce sont les politiques qui devraient s'emparer de ces sujets et qui ne le font manifestement pas. D'ailleurs, de récentes études montrent que les citoyens et les consommateurs attendent plus des marques que des politiques pour régler les problèmes de la planète. C'est ainsi que on a vu dans les palmarès une campagne primée pour un journal libanais qui est paru avec une page blanche pour inviter ses lecteurs à écrire eux-mêmes les articles et appeler la classe politique à enfin former un gouvernement. Mais la campagne qui a fait le plus parler ici, c'est la campagne Nike en soutien à Colin Kaepernick, ce joueur de baseball américain qui s'était agenouillé pendant l'hymne de son pays, déclenchant une vague de haine sur les réseaux sociaux, mais toujours soutenu par sa marque qui en a fait une vaste campagne de communication. Une campagne qui a permis à l'équipementier non seulement de se poser en défenseur des droits de l'homme, mais aussi d'augmenter ses ventes. Car ne l'oublions pas, la publicité, même quand elle prend des accents pour courageux, a pour mission d'accélérer la marche du business. Et ça, on n'est pas prêt de l'oublier ici à Cannes, même les pieds dans le sable sous les palmiers.
Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News à Cannes pour BFM Business.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le zoom du jour autour de l'entertainment, une tendance qui se confirme donc dans le secteur de la pub. On en parle aujourd'hui avec Brian Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planeur stratégique senior chez Derwin et Nicolas Levent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes brand doctor and VP de la Branding Content Marketing Association en France. Alors cette année, merci pour ce titre très long, cette année Cannes a reçu 830 dossiers pour la catégorie entertainment. Qu'est-ce qui explique selon vous deux que les méthodes de la pub aujourd'hui finalement s'inspire de plus en plus du domaine de l'entertainment? Brian Coste.
Alors, je pense que les raisons sont multiples. En fait, il y a d'abord une problématique par rapport à l'audience qui en fait a un besoin d'entertainment. Il y a une étude assez intéressante par Havas qui a été publiée lors de Cannes Lions qui montre que 87% des individus interrogés disaient que l'entertainment c'est un besoin vital. Donc, qui dit besoin vital disent que les marques ont besoin de s'approprier ce besoin et d'aller, de récupérer les codes par rapport à ça. Le deuxième point, je pense que c'est très lié aux audiences qui consomment cet entertainment justement et qui consomment différemment sur plusieurs supports. Ça peut être du documentaire, ça peut être de la vidéo sur YouTube qui va durer 1h15 pour Squeezie par exemple. Et il y a également une problématique de coût où je pense qu'en fait réussir à récupérer les codes de l'entertainment pour certaines marques, c'est très intéressant d'un point de vue budgétaire. Je pense au cas de Wendy's qui a hacké Fortnite. C'est pas une opération qui a coûté des millions d'euros, mais par contre ça leur a rapporté énormément en earned media et ça leur a même rapporté un prix justement dans la catégorie entertainment.
Est-ce que malgré tout, là vous expliquez qu'il y a ce besoin vital d'entertainment, est-ce que c'est vraiment le rôle des marques que devoir jouer les entertainers? Est-ce que finalement on s'écarte pas aussi un petit peu du rôle initial que devrait être celui des marques quand elles prennent la parole, c'est-à-dire tout simplement de nous vendre un message, une posture, des valeurs?
Nicolas Levent.
Ouais, je pense qu'on il y a pas de rôle qui soit dédié aux marques. C'est plutôt au contraire être intelligent de la part des marques d'aller répondre à une demande. La marque ayant comme objectif effectivement de divertir, mais surtout pour une seule raison, qui est de convertir. L'idée, c'est pas simplement de divertir parce qu'on se fait plaisir, et c'est pas simplement de répondre à une demande croissante de contenu, c'est surtout d'utiliser cette demande-là pour pouvoir aller simplement capter un peu d'attention, capter un peu d'intérêt, dans l'idée de vendre son message, de vendre ses produits et de vendre ses services.
Et cette conversion, divertir, convertir, elle est aussi évidente que ça? Elle se mesure, on la connaît?
C'est comme dans tous les dispositifs de com, je crois que Brian, qui en est un des experts, le sait très bien. L'idée, c'est de faire des dispositifs qui soient intelligents. Donc, c'est pas simplement de prendre l'alibi d'être sur l'entertainment, le divertissement, on peut l'appeler comme on veut, le sport, le cinéma, la musique, la chanson, l'art, la culture. C'est surtout de le faire parce que ça donne du sens au message, ça donne du sens à la marque. Mmh. Et derrière, ça rebondit sur des produits et des services qui vont trouver leur voie sur un public devenu captif.
Mmh. Brian, vous avez évoqué les formats. Alors, ça va du documentaire au gaming, aux séries, aux histoires plus ou moins longues, aux fictions, pas fictions. Est-ce que ça ringardise pas le bon vieux spot télé, finalement, tout ça?
Je sais pas si ça ringardise, mais je dirais que c'est enfin dans les usages, quelque part, de la cible qu'ils essayent de capter. Je vais prendre des exemples que je connais. Si vous avez envie de réussir à faire de la pédagogie autour de l'art, par exemple autour de Vermeer, qui est pas forcément le peintre le plus évident, quand vous êtes Google, notamment Google Arts and Culture, c'est plus facile en fait de faire cette pédagogie via Instagram, via des stories. C'est un exemple très concret qu'on a fait au sein de Darwin pour leur apprendre le jeu des couleurs de Vermeer, plutôt que d'aller sur, je sais pas moi, sur M6 et faire un spot de 30 secondes sur hey, au fait Vermeer c'était vachement bien. Non, en fait il faut réussir à être au bon endroit au bon moment, et l'entertainment est parfait par rapport à ça. Et vous parlez des formats, ce qui est très intéressant avec les Cannes Lions cette année, je trouve, c'est qu'en fait on a vu du documentaire avec le Grand Prix Entertainment.
Ouais, alors voilà, j'allais y venir. Moi, ce Grand Prix Entertainment, il faut que vous m'expliquiez. Parce que, en fait, c'est. Alors, on va parler de la campagne 5 minutes. C'est 5B, un documentaire d'1h30 produit par Johnson & Johnson qui parle d'une aile d'un hôpital fin des années 70, début des années 80, où étaient placés des malades du sida, et ça raconte l'histoire des infirmiers dans cet hôpital. Mais la marque, elle est à peine visible. Quel est l'intérêt pour Johnson & Johnson de faire ça aujourd'hui? Je comprends pas.
Alors, Nicolas parlait de la notion de valeur. Et je trouve qu'en fait, c'est quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce Grand Prix. C'est que Johnson & Johnson a créé de la valeur, en fait, avec les infirmières. Et c'est une problématique réelle par rapport à eux. Et là, en fait, ils les mettent en avant pendant 1h30. Il y a une histoire réelle. Donc, en plus, qui dit histoire réelle dit envie de l'apprendre, envie de la partager, quelque part. Ils ont réussi à créer de la valeur avec leur... En fait, ça répond aussi à une problématique B2B. Et c'est là où c'est excessivement intéressant d'avoir pris cette histoire vraie, d'en avoir fait un documentaire pendant 1h30 et de valoriser ces profils qui sont chez Johnson & Johnson pendant 1h30 autour d'une histoire vraie qu'on a envie de suivre. En plus, c'est une problématique qui est très lourde. C'est là où je trouve qu'il y a un vrai impact pour la marque. Donc oui, c'est moins visible parce qu'il y a une culture d'entertainment là-bas qui fait qu'on n'est pas obligé de mettre un logo toutes les 30 secondes. Par contre, in fine, vous savez que c'est Johnson & Johnson et le boulot est fait. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant au niveau des valeurs partagées.
Justement, le fait qu'il y ait effectivement beaucoup plus de formats qui permettent de communiquer, de divertir. Est-ce qu'objectivement on peut divertir avec cette double problématique de divertissement et quand même de service de la marque? Est-ce qu'on peut combiner les deux, quel que soit le format? Est-ce qu'on peut divertir en 30 secondes? Est-ce qu'on peut divertir en une heure? Est-ce que c'est de la même manière? Est-ce que l'objectif est le même?
Sur le divertissement, ce qui fait la clé lorsque les marques se l'approprient, c'est plutôt de sortir des formats. C'est vrai que le format ne doit pas guider la notion d'entertainment telle que la marque peut l'imaginer. Mm-hmm. Donc le vrai sujet, c'est plutôt de savoir sortir de ces formats-là. Après, on retrouve des formats. Sur les documentaires, il y a des formats qui ont été normés depuis belle lurette, par les chaînes télé. Et ce que je trouve moi très intéressant sur la manière dont les marques peuvent s'approprier, effectivement, capter une audience, capter de l'intérêt et derrière faire éventuellement de la conversion, c'est qu'aujourd'hui on retrouve, et la boucle est un peu bouclée, ce qui se faisait dans les années 30 et les années 40. On se dit est-ce que c'est normal de parler que de valeur lorsqu'on est Johnson & Johnson sans mettre en avant nos produits? Est-ce que c'était normal dans les années 30 d'inventer des soap opéras pour par des lessiviers pour entretenir la ménagère qui était en train de faire du repassage? Et donc je crois qu'aujourd'hui, lorsque par exemple une plateforme comme Amazon, qui est quand même le plus grand magasin du monde sur lequel toutes les marques sont en train de vendre leurs produits, à un seul clic juste à côté vous permet de voir des séries assez extraordinaires. On imagine les perspectives que ça peut ouvrir pour des marques de rentrer dans des formats, peut-être, effectivement, des formats plus normés par la plateforme, mais en tout cas pour aller donner de la valeur, donner de l'intérêt à un seul clic de la vente de leurs produits. Donc je crois qu'il y a vraiment l'histoire qui est en train de se répéter.
Et en termes de coût, vous disiez, Brian, que ça coûte pas très cher. J'ai du mal à croire que produire un documentaire d'1h30, ça coûte pas très cher.
Alors, j'ai pas dit que ça coûtait pas très cher, tout dépend en fait de la problématique. Mais les Cannes Lions ont été très instructifs par rapport à ça, quelque part. Je parlais de l'OP Wendy's, où concrètement, ils se sont amusés à aller casser des frigos dans Fortnite sur Twitch. C'est pas quelque chose qui coûte très cher, c'est quelqu'un qui pendant 9 heures a joué, et en fait, il y a eu une démarche d'influence derrière. C'est pas un documentaire d'1h30, pourtant, ça a fait le job. Je pense qu'on qu'on peut penser à Uncle Drew aussi. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Kyrie Irving, le joueur de NBA, qui en fait est une histoire d'une heure et quelques sur les effectifs de Pepsi. Et en fait, c'est un film qui a été intégralement produit par le studio Lionsgate, bon, pas du tout par la marque. Mais en effet, ça prend l'égérie fictive de Pepsi, Uncle Drew, pendant plus d'une heure avec un joueur de NBA. Donc là, vous voyez que tous les univers de l'entertainment se croisent et pourtant, la marque n'a pas dépensé un seul euro.
Quand on parle d'entertainment, on associe souvent aussi la notion d'émotion qui est chère aux marques en communication. Souvent, l'entertainment permet, génère une émotion qui elle-même est censée servir le propos. Est-ce que à trop entertainer un peu tout, on va pas justement trop actionner ce levier de l'émotion et finalement créer un effet contre-productif, faire trop d'émotion qui tue l'émotion?
On n'a jamais trop d'émotions. On est tous des êtres humains. On est face quand même à un grand spectacle mondial aujourd'hui, dans lequel les marques sont des vrais marqueurs de la société. Hein. Enfin, voilà, on l'oublie souvent, mais donc elles sont le reflet et le miroir de ce qui se passe. Et on vit dans une société qui, depuis 10 ans, n'est même pas sortie de la crise de 2008-2010, là, qui était une crise financière, qui est devenue une crise économique et sociale, dont on ne sait même pas si elle est finie. J'ai pas l'impression, parce qu'il y a des marqueurs qui montrent bien que dans la société et dans la rue, il y a des choses qui vont pas. Et puis, à côté de ça, on a une crise environnementale qui fait que c'est la fin de la planète et donc la fin du monde. Donc, dans ce monde-là, on a besoin d'émotions. On a besoin d'émotions et on est tout à fait aujourd'hui capable d'entendre que ces émotions soient données par des marques, comme elles peuvent être données par des studios, par des artistes eux-mêmes, par des créateurs. Chacun peut prendre sa part lorsqu'il s'agit de donner des émotions. Et juste pour répondre sur la partie du budget, l'émotion n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'on peut donner une émotion symbolique, hein, avec un euro symbolique.
C'est les publicitaires qui vont être contents.
Ça veut dire aussi qu'on peut donner une émotion à milliards d'euros. Enfin, je veux dire, je reprends cette fameuse marque de soda qui nous permettait de suivre en direct le plus grand saut, le saut le plus haut de l'espace.
Ouais, Red Bull.
La NASA aurait été dingue de avoir les mêmes moyens pour pouvoir faire suivre.
C'est vrai.
Et je veux dire, c'est mondial. Et donc, il n'y a pas d'histoire de coût, mais il y a d'histoire d'émotion.
Merci beaucoup, Brian Cos, planeur stratégique senior chez Derwin, et Nicolas Levent, Brand Doctor and VP de la Branded Content Marketing Association en France. Merci également à Valérie Potin de CB News d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.